Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 15 octobre, ravi de vous retrouver comme chaque samedi à cette même heure pour notre revue des grands moments de l'actualité de la semaine avec les reportages de la rédaction et notre invité cette semaine, un combattant, un bretteur, un pourfendeur de l'injustice, Jean Ziegler. Dans la seconde partie, après le flash, rendez-vous avec vos messages aussi. Continuez bien sûr à nous dire depuis quand vous écoutez l'émission qui fête, je le rappelle, ses 20 ans cette année. Une semaine d'actualité, une émission que vous pouvez aussi écouter quand vous le souhaitez sur notre site rfi.fr. Bonjour Jean Ziegler.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir, c'est toujours positif de recevoir un combattant.
Merci de l'invitation.
Combattant en faveur des déshérités avec l'ONU sur les questions d'alimentation, les questions de droits de l'homme. Et vous venez d'écrire un nouveau livre qui s'intitule « Chemin d'espérance, ces combats gagnés, parfois perdus, mais que nous remporterons ensemble », un livre publié au Seuil. Je rappelle, Jean Ziegler, que vous avez eu plusieurs vies, hein, finalement, professeur, député, écrivain, ça vous l'avez toujours été, rapporteur spécial donc de l'ONU pour l'alimentation, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme à Genève. Quelle vie ? Elle est racontée d'ailleurs dans le livre.
Oui, c'est vrai, ce livre est un livre qui s'appelle « Chemin d'espérance », qui peut-être, ça peut paraître paradoxal du simple fait que l'ONU est par terre, elle est absente. Regardez ce qui se passe en Syrie, ce massacre effroyable à Alep d'une population civile massacrée, bombardée jour et nuit, et l'ONU est absente. Pas un casque bleu, pas un corridor humanitaire, pas une zone d'interdiction de vol. Et pourtant ce livre s'appelle, c'est des récits de mes combats, au sein de l'ONU, puisque j'ai été, comme vous l'avez rappelé, rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation, et puis maintenant je suis vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Et pourtant, il y a de l'espérance.
Mais il y a toujours de l'espérance. Avec vous, il y a toujours de l'espérance. Vous êtes réconcilié avec les banques suisses, parce que je rappelle que vous avez mené aussi des combats contre les paradis fiscaux. Et dans un film qui va sortir sur vous, Jean Ziegler, l'optimisme de la volonté, justement, ça rappelle oui. Gramsci. Il paraît qu'en 1964, le Che vous a demandé de rester en Suisse dans le cerveau du monstre capitaliste.
Oui, ce qui s'est passé, j'ai été le chauffeur du Che Guevara c'est le néolithique, en 64. J'étais le chauffeur pendant 12 jours quand le Che dirigeait la délégation cubaine à la conférence internationale du sucre de la CNUSET. Et le dernier jour, juste avant son départ pour Munich, Prague et puis La Havane, j'ai pris tout mon courage et j'ai dit, commandant, je vais aller avec vous. Le Che était assez ironique, assez froid, mais formidablement intelligent. Il m'a appelé à la fenêtre de son hôtel qui était un peu au-dessus de Genève, sur une colline, comme ça connaît. Et dans la nuit, on voyait les réclames, les scintillantes, etc., des banques, des bijoutiers.
Il y en a quelques-unes et quelques-uns.
Oui, il y en a beaucoup, oui. Et quelques-uns. Et il a dit, tu vois cette ville là-bas. J'ai dit, oui, commandant, oui, j'ai vu. Et il me dit, c'est là où tu es né, c'est là où tu dois te battre. Et c'est retourné et parti, froidement. Et j'étais évidemment complètement blessé. Je me disais, le Che me prend pour un petit bourgeois inutile, ce qui était probablement le cas. Mais il m'a sauvé la vie. Et il m'a montré le.
Eh oui, je suis. Parce que vous n'avez jamais cessé de combattre depuis.
Oui, l'intégration subversive. Je suis devenu député de Genève au Parlement de la Confédération, je suis devenu professeur à l'université, ensuite rapporteur spécial des Nations Unies, toujours avec le même but, intégrer les institutions, les utiliser pour cette insurrection des consciences qui doivent mettre fin un jour à l'ordre cannibale du monde. Il y a tous les 5 secondes sur cette planète, un enfant meurt de faim. Alors que l'agriculture mondiale, selon l'ONU, pourrait nourrir le double de l'humanité. Un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, surtout en Afrique évidemment, est assassiné. Et cet ordre cannibale du monde, il faut l'abattre.
Alors je vous propose, Jean Ziegler, et ça va entretenir votre colère, de parler maintenant de la Russie. La Russie oui. En froid avec Paris. La visite que Vladimir Poutine devait effectuer dans la capitale française le 19 octobre prochain a été annulée par Moscou. Écoutez la réaction du président français.
Dès lors qu'il sera possible, et je le souhaite, que la Russie puisse
être véritablement décidée à faire cesser les bombardements auxquels elle participe en soutenant le régime syrien, je suis prêt à tout instant à prendre le chemin du dialogue.
Alors après François Hollande, Vladimir Poutine, écoutez ce qu'il disait de son côté mercredi pour justifier son veto à un projet de résolution française au Conseil de sécurité sur l'arrêt des bombardements à Alep, c'était la semaine dernière.
Le ministre français des Affaires étrangères est venu à Moscou présenter la résolution française. Et on s'attendait à un travail constructif avec la France et les autres membres du Conseil de sécurité. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le ministre s'est envolé à Washington. Et le lendemain, avec John Kerry, ils ont accusé la Russie de tous les péchés possibles. Et ils ont soumis cette résolution au Conseil de sécurité en s'attendant manifestement à notre veto. Et pourquoi? Pour rendre la situation encore plus tendue et pour relancer cette hystérie anti-russe. Je ne parle pas uniquement de la France, mais aussi des pays européens et des États-Unis. Mais c'est sans doute précieux en période de lutte électorale. Je me demande si ça correspond aux intérêts des pays européens. Servir de cette façon les intérêts extérieurs ou peut-être même intérieurs de ses alliés, en l'occurrence les États-Unis. Est-ce que c'est le rôle d'une politique sérieuse et d'un pays sérieux?
La Russie, qui, vous le savez, Jean Ziegler, explique bombarder souvent des civils pour lutter contre l'organisation de l'État islamique, mais qui veille aussi à ses propres intérêts en Syrie. La preuve, l'ouverture d'une base permanente à Tartous et d'une base aérienne aussi. Moscou lundi, Muriel Pomponne.
C'est le vice-ministre de la Défense, Nikolaï Pankov, qui en a fait l'annonce devant la Chambre haute du Parlement. Nous aurons de manière permanente une base militaire à Tartous. La ratification de l'accord pourrait avoir lieu prochainement, dès le mois d'octobre, d'après certaines sources. Tartous est situé au nord-ouest de la Syrie. Des batteries de défense antiaérienne S-300 y ont récemment été déployées. Cette annonce intervient au lendemain de la ratification par la Douma de l'accord russo-syrien sur le caractère permanent et gratuit de la base aérienne de Khmeymim, installée par les Russes en août 2015. Cette base est située près de Latakié, dans le fief de Bachar al-Assad. La Russie y a déployé des batteries de défense antiaérienne S-400 depuis novembre dernier. La Russie renforce ainsi de manière significative sa présence militaire en Méditerranée. La base de Tartous existait déjà à l'époque soviétique, avant d'être transformée en simple atelier de maintenance. Mais la Russie a à nouveau l'ambition d'installer des bases à l'étranger. Elle envisage des discussions sur cette question avec l'Égypte, Cuba et le Vietnam.
Alors Jean Ziegler, le voici l'ordre cannibale du monde dont vous parlez dans le livre. Le voici.
Oui, je me répète, c'est totalement inadmissible ce qui se passe en Syrie. Et la Russie qui appuie une dictature sanglante qui existe depuis 1970, puisque le père de Bachar al-Assad a fait le coup d'État Hafez en 1970, donc depuis 36 ans maintenant, cette famille Assad torture, terrorise, exploite, pille la Syrie qui est un pays magnifique, multiculturel, avec où toutes les religions vivaient bien ensemble, une vieille, vieille culture, un peuple, un des peuples les plus fascinants que je connaisse, 24 millions de Syriens appartenant à des communautés multiples. Eh bien, la Russie a fait cause commune avec Bachar al-Assad et massacre, notamment à Alep, des centaines et des milliers de personnes, hommes, femmes et enfants,
avec
dans un cynisme.
Avec des bombardements d'hôpitaux, il faut le
rappeler. Des bombardements d'hôpitaux, vous avez tout à fait raison, d'écoles, d'hôpitaux, de boulangeries, pour terroriser, pour mettre à genoux une population qui, des gens comme vous et moi, des démocrates qui veulent la liberté, c'est tout. Alors, il y a ce veto russe, vous l'avez mentionné tout à l'heure, celui du 8 octobre, qui a paré la route à la résolution française, qui voulait un armistice, au moins à Alep et des corridors
humanitaires.
Un cessez-le-feu. C'est le cinquième veto russe. La Russie utilise son droit de veto au Conseil de sécurité. Et sans le Conseil de sécurité, les Nations Unies ne peuvent pas bouger. Donc, ils sont totalement absents de cet abattoir. Et le terme d'abattoir est de Ban Ki-moon. Mais il faut quand même ajouter une chose. Et vous savez, évoquer les banques suisses.
Oui, notre combat avec les combattants.
Les banques suisses tout à l'heure, qui m'ont fait condamner 9 fois quand j'ai publié La Suisse lave plus blanc, qui ont fait lever mon immunité parlementaire, enfin, qui m'ont ruiné, mais il y a d'autres drames dans le monde. Les banques suisses ont un rôle très néfaste dans ce conflit syrien, à certaines banques suisses. Rami Maklouf, qui est le cousin de Bachar al-Assad et qui est dans le clan Assad, le financier qui s'occupe de la fortune privée, mais aussi des achats d'armement dans le monde entier, Rami Maklouf a sa base à Zurich, sa base financière à Zurich. Un avocat s'occupe de lui qui s'appelle Christophe Zollinger, signe les contrats, etc., etc., qui est le chef de la filiale de l'étude d'avocat Mossack Fonseca, qui est ce cabinet d'avocats panaméen.
On en a parlé il y a quelques mois, qui a, voilà, nous a permis d'avoir quelques révélations.
Oui, c'est les Panama Papers, les Panama Papers, parce qu'il y a eu des fuites dans ce cabinet d'avocats, qui surtout fait à 260 000 sociétés offshore, qu'elles mettent à disposition, ce cabinet met à disposition des truands du monde, enfin des pires personnages en général du monde, et notamment travaille avec ce Rami Maklouf, dont le financement, l'achat d'armement, etc., passe par Zurich, à travers ce cabinet Mossack Fonseca, succursale zurichoise, dirigé par ce Christophe Zollinger. Alors, il a là une hypocrisie helvétique, totalement intolérante, je le dis en tant que Suisse qui aime son pays, totalement intolérable, d'une part, bien sûr, comme tout être normalement constitué, je pense les Suisses, comme les Français, comme tout le monde, est horrifié et révolté par ce massacre des populations civiles par les Russes et par Bachar el-Assad. Mais en même temps, le gouvernement suisse laisse faire et ce Rami Maklouf vient de Damas, vient à Zurich, pour ses affaires financières, au nom du clan Assad, achète les armes, des munitions qui sont ensuite livrées à Damas, qui permettent ensuite de massacrer le peuple.
La Suisse laisse vraiment faire ?
Et la Suisse laisse totalement faire, puisque c'est la liberté du marché, puisque les banques aussi sont tellement puissantes en Suisse, l'oligarchie bancaire est tellement puissante en Suisse, que le gouvernement fédéral n'a pas la force, même si il a aussi une complicité silencieuse, parce que la Suisse est le pays, après le Koweït, le plus riche par revenu par tête habitant.
Jean Ziegler, nous allons continuer à parler de la guerre et de la paix, pour partir par exemple pour le Yémen maintenant, car la guerre en Syrie, Alep notamment, ne doit pas nous faire oublier ce conflit. Plus de 140 personnes ont été tuées samedi dernier et des centaines blessées dans des raids aériens attribués par les rebelles houthis à la coalition arabe dirigée par l'Arabie Saoudite. Une enquête est ouverte, Sami Boukhalifa.
Pour les rebelles houthis, nul besoin des conclusions de cette enquête, ils savent qui les a bombardés. Ils accusent directement l'Arabie Saoudite. Le royaume voisin et sa coalition de pays arabes écrasent le Yémen sous un tapis de bombes depuis mars 2015. Des frappes aériennes parfois aléatoires, des habitations, des écoles et des hôpitaux sont régulièrement détruits. La monarchie saoudienne intervient officiellement à la demande du gouvernement yéménite en exil, chassé par la minorité houthi. Ces rebelles houthis sont chiites, ils sont proches de l'Iran, ennemi juré des Saoudiens, qui n'ont pas eu besoin de plus de raisons pour enclencher leur machine de guerre. Samedi soir, le bombardement provoque un massacre à Sanaa, la capitale. Il vise des Houthis rassemblés dans une salle à l'occasion d'une veillée funèbre. Le bâtiment prend feu et finit par s'effondrer. Un véritable carnage. Profondément troublés, les États-Unis, alliés de Riyad, annoncent désormais le réexamen de leur soutien à la coalition. Ces derniers mois, cette aide avait déjà été réduite.
Notez aussi que les États-Unis ont bombardé pour la première fois les rebelles houthis accusés d'avoir visé des bateaux de guerre américains en mer Rouge. Des missiles ont visé 3 stations radar selon Washington.
Sept jours dans le monde.
Ça y est, Jean Ziegler, l'ONU, dont vous faites l'avocat dans ce livre, a officiellement un nouveau secrétaire général en la personne du Portugais Antonio Guterres, ovationné par l'Assemblée générale jeudi, l'Assemblée générale et ses États membres, à New York jeudi, Marie Bourreau.
J'ai l'honneur d'annoncer que Son Excellence Antonio Guterres a été nommé par acclamation secrétaire général de l'ONU.
C'est la 9e fois seulement que l'Assemblée générale connaît un tel cérémonial. La quasi-totalité des ambassadeurs des 193 États membres sont là pour acclamer et écouter le discours du polyglotte Antonio Guterres qui s'exprime en anglais, portugais, espagnol et dans un français impeccable.
Sans paix, la vie est vidée de tout son sens. Mais la paix est aujourd'hui et malheureusement la grande absente dans notre monde.
Et Antonio Guterres le sait, il sera attendu dès ses premiers jours à la tête de l'ONU sur le conflit syrien.
Maintenant, il est plus important de s'unir parce que le risque pour la communauté internationale et la sécurité collective est tel qu'il est grand temps de se battre pour la paix.
fight for peace.
Habile négociateur, le nouveau secrétaire général assure vouloir être, je cite, un honnête médiateur. Je ferai mon possible, dit-il, pour servir la cause de la paix pour le peuple syrien.
Et rendez-vous en janvier pour le début de son mandat. Il faut aussi signaler dans l'actualité, évidemment, le passage de l'ouragan qui a déferlé sur Haïti mardi dernier et qui a fait au moins 473 morts et plus de 175 000 sinistrés. Vous connaissez bien le nouveau secrétaire général de l'ONU?
Oui, je connais bien, m'intéresse, parce que d'abord c'est quelqu'un magnifique, j'aime beaucoup, un vrai portugais énergique, un peu petit, rablé, comme ça, courageux. Il était, je le connais pour deux raisons, d'une part, il était président de l'International Socialiste, oui, pendant des longues années, parce qu'il était l'ancien secrétaire général du Parti Socialiste et ensuite Premier ministre socialiste du Portugal, ensuite président de l'International Socialiste, et moi j'étais un tout petit membre du conseil exécutif. Et ensuite, de 2005 à 2015, il habitait Genève, pas très loin d'ailleurs, dans le même quartier que moi, comme haut-commissaire des réfugiés des Nations Unies. Alors,
C'est l'homme de la situation, selon vous, parce que dans ce livre, Les Chemins, oui, Chemin d'espérance, chemin au pluriel d'espérance, vous faites un plaidoyer pour l'ONU. Il est temps que l'ONU se réveille, dites-vous, et vous avez raison, à mon sens. Le secrétaire général, dans ce contexte, est très important.
Est totalement central. Et je crois que ce qu'on attend de lui maintenant, d'une façon très concrète, et il le sait, c'est qu'il mette en œuvre le plan de réforme de Kofi Annan. Parce que Kofi Annan, Ban Ki-moon non, mais Kofi Annan était aussi un grand bonhomme. Et quelques semaines avant de quitter le secrétariat, en 2006, il a déposé comme une forme de testament un plan de réforme.
Ah oui, du Conseil de sécurité notamment.
C'est ça, notamment du Conseil de sécurité. Il a dit aussi longtemps que le droit de veto existe dans la forme actuelle, eh bien l'ONU est paralysée, puisque, et il avait raison, en Syrie c'est les Russes qui empêchent toute intervention, à Gaza, Palestine occupée,
les Américains qui
la sauvagerie israélienne se déploie, et les Américains les protègent pas le dire. Au Darfour, c'est Omar Bachir, un dictateur musulman, qui massacre trois peuples africains, les Fours, les Massalites et les Sagwa, depuis 6 ans. Là, c'est la Chine qui protège le dictateur de Khartoum, parce que 11% du pétrole utilisé en Chine vient du Soudan. Donc, partout, les conflits les plus effroyables perdurent, excluent les Nations Unies à cause du veto. Et Kofi Annan a dit, il faut interdire le veto dans les guerres où des crimes contre l'humanité sont commis. Le veto doit être interdit pour que les Nations Unies puissent intervenir selon le chapitre 7, les casques bleus, les blocus économiques, etc. Évidemment, les membres permanents ont fait bloc contre. Et la réforme a disparu dans les tiroirs. Aujourd'hui, le temps a changé, puisque les djihadistes, ces monstres affreux, horribles, produits par la guerre syrienne, tuent en plein Paris, tuent à Nice, tuent à Bruxelles, tuent à Washington, à Londres, dans le métro, etc. Et tout à coup, l'horreur produite par l'inaction aussi des Nations Unies a des conséquences meurtrières au cœur même des pays occidentaux ou même russes. Et c'est une chance,
si on peut dire,
c'est une chance pour Guterres de dire, mais regardez, si vous laissez le veto en place, si rien n'est fait, si l'ONU ne se réveille pas, rétablit pas, n'est pas mise en état de rétablir la sécurité collective, par exemple en Syrie, par exemple au Darfour, eh bien, vous allez avoir les pires meurtriers parmi vous, dans vos capitales. Et c'est une situation tout à fait nouvelle. Et un homme comme Guterres, qui a de la patience, qui a le talent diplomatique, et l'obstination et le courage personnel pour affronter quand même les grandes puissances, les gouvernements qui occupent les 5 sièges permanents, je suis... C'est pas un titre idéaliste, un chemin d'espérance. C'est pas,
mais
c'est
vous
pas
espérez,
un titre romantique.
Tout cas, mais vous espérez.
Là, il a une espérance effective, réelle, à partir du 1er janvier, prise de pouvoir par Guterres.
Jean Ziegler, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles, oui, du monde, où il sera aussi, oui, sans doute question de guerre et de paix. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
L'atelier des médias.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'actualité en France et en Afrique, cette fois en compagnie de notre invité Jean Ziegler, auteur des Chemins d'espérance.
Une semaine d'actualité.
Avant de nous rendre au Sénégal ou en Ouganda, par exemple, et retrouver vos messages, bien sûr, arrêtons-nous un instant en France avec le premier débat télévisé des primaires de la droite et du centre jeudi soir, Julien Chavannes.
Ça a commencé comme un film d'action, mais il aura fallu attendre longtemps les premières cascades. Stressés, accrochés à leur pupitre, les candidats ont eu du mal à sortir de leur texte, sauf pour Jean-François Copé qui a décoché la première flèche.
Il y a 10 ans, en 2007, j'avais, comme des millions de Français, espéré en la rupture que proposait Nicolas Sarkozy pour notre pays. Cette rupture, malheureusement, l'a pas faite.
L'ancien président réplique, il rappelle avoir gouverné avec tous ceux qui l'entourent. Sur le plateau, on se tutoie, mais les passes d'armes se multiplient au fil de la soirée. Deux sujets auront rapproché les rivaux. D'abord, les affaires. Alain Juppé est obligé de revenir sur sa condamnation pour les emplois fictifs de la ville de Paris.
Aujourd'hui, les Français ont la décision au bout de leur bulletin de vote. S'ils estiment que ma faute me disqualifie, ils ne m'éliront pas.
Autre sujet qui rassemble François Hollande, Nicolas Sarkozy et François Fillon se retrouvent pour attaquer le chef de l'État. Sur le style, Alain Juppé sera resté au-dessus de la mêlée, à peine attaqué sur son identité heureuse. Nicolas Sarkozy est apparu sur la défensive, Jean-François Copé le plus mordant. Quant à Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet, ils se seront disputés toute la soirée le créneau du renouveau.
Le recyclage, ça marche pour les déchets. Pas pour les idées.
Jean-Frédéric Poisson, lui, sera sorti de l'ombre. À l'écart, il aura su faire entendre sa voix singulière.
Jean Ziegler, on est loin des préoccupations onusiennes dans votre livre, mais la politique française vous intéresse toujours ?
Bah, oui, c'est la France quand même, qui reste pour moi, je parle en tant que sociologue, professeur à l'Université de Genève, ne serait-ce que dans le domaine intellectuel, la première puissance du monde. Ce qui se passe en France, intellectuellement, politiquement, est totalement déterminant et je trouve paradigmatique pour le temps que nous vivons. Alors, ce qui me frappe, surtout, il y a beaucoup de critiques maintenant sur la vie politique française. Il faut quand même dire une chose, il y a une vivacité et une richesse d'idées antinomiques, contradictoires, comme dans aucun pays du monde. Moi, je suis bilingue, par exemple, je parle ma langue maternelle est l'allemand, le suisse allemand, c'est pire encore. Eh bien, si je regarde la vie politique allemande, c'est une morne pleine. C'est une morne pleine, alors que c'est la première puissance économique du continent, la troisième du monde. Bah, les débats du Bundestag, c'est d'un ennui total. Tandis qu'en France, malgré toutes les critiques qu'on peut faire du parisianisme, etc., bah, il y a une vivacité.
Il y en a pour tous les goûts.
Bah, non, il y a surtout une créativité intellectuelle extraordinaire.
Alors Jean Ziegler, vous vivez donc à Genève, vous avez très tôt rencontré les chemins des Nations Unies, les chemins d'espérance, pour reprendre le titre de votre livre, c'est « Combats gagnés, parfois perdus, mais que nous remporterons ensemble », c'est le sous-titre du livre publié au Seuil. Genève donc, qui a connu avant la Deuxième Guerre mondiale la Société des Nations, évidemment, qui connaît maintenant l'ONU. J'en reviens donc à ces Nations Unies. C'est presque un cri d'amour que vous lancez, en fait. Vous faites vraiment l'avocat des Nations Unies, tant décrié et pourtant si utile sur le continent africain dont on va parler maintenant.
Vous avez tout notamment à fait raison. Il y a eu la Société des Nations, à la sortie de la boucherie de la Première Guerre mondiale, qui a duré 25 ans, qui s'est défait complètement. La Deuxième Guerre mondiale est arrivée, la Société des Nations ne pouvait rien empêcher. Deuxième guerre mondiale, effroyable boucherie, peut-être plus effroyable boucherie. Et Churchill et Roosevelt, qui sont les deux vrais fondateurs de la nouvelle organisation des Nations Unies, qui ont créé le nom, qui ont créé la charte de 45, qui était derrière la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, eh bien, voulaient faire un monde totalement nouveau, qui avait trois dimensions. D'abord, plus jamais de guerre, donc un système de sécurité collectif qui mettrait à genoux chaque...
Un pour tous, tous pour un.
Oui, c'est ça, un système de sécurité collectif. Ensuite, respect total des droits de l'homme pour chaque habitant de cette planète, les droits économiques, sociaux et culturels, comme les droits politiques et civils. Et ensuite, justice sociale planétaire, c'est-à-dire en 45-48, les trois quarts de l'humanité vivaient sous la férule coloniale, surtout l'Afrique encore. Les Nations Unies ont exigé que ça se termine et que l'aide du Nord, qui a pillé le Sud et qui continue malheureusement, rétablit, fasse réparation par l'aide au développement, par les nouveaux termes d'échange, etc. Ça, c'est les trois piliers, sécurité collective, droits de l'homme et justice sociale planétaire. Ça reste l'utopie qui habite la conscience collective. Sans les principes fixés dans la charte Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il n'y a simplement pas de civilisation sur Terre. Donc c'est l'horizon de tous nos combats doit être ça.
Et c'est malgré
la bureaucratie, malgré la raison d'État qui pervertit le Conseil des droits de l'homme, malgré l'inégalité, 35,2% de la population du continent africain sont gravement et en permanence sous-alimentés. Les maladies comme le Noma, par exemple, qui mange les tissus, maladie de la sous-alimentation, qui mange le tissu mou des visages des enfants qui pourraient arrêter avec 3 euros des antibiotiques pour 3 euros dans les premières semaines, continue à progresser en Afrique. C'est-à-dire c'est un continent martyr et qui est en même temps infiniment puissante.
Alors, on va en parler de l'Afrique dans un instant, Jean Ziegler. Mais l'ONU, où se rend compte cet idéal dont vous parlez, ce noble idéal, et la raison d'État, ce que l'on appelle la raison d'État, la réelle politique.
C'est ça.
Vous parlez d'ailleurs à un moment de Kissinger dans votre livre, qui est quand même le représentant de cette réelle politique.
Les Américains, à la fois, sont les premiers contributeurs des Nations Unies dans les... Du programme alimentaire mondial, ils payent 60%. Des casques bleus, ils payent 71%.
Pour le budget ordinaire aussi.
Pour le budget ordinaire, le 26%, c'est de très loin. Et en même temps, les États-Unis n'ont pas renoncé, et au contraire, à leur stratégie de toujours impérialiste. C'est-à-dire ils utilisent les Nations Unies par l'infiltration, par la manipulation, pour leurs buts impériaux. Et quand ça ne marche plus, comme par exemple en mars 2003, quand Bush voulait s'emparer des champs pétroliers d'Irak, eh bien le Conseil de sécurité, sous la conduite de la France d'ailleurs, c'était Villepin qui a fait le grand discours, le Conseil de sécurité a dit non, nous ne couvrons pas cette opération. Le président Bush a dit, je m'en fous, Nations Unies ou pas Nations Unies, j'attaque, je détruis Bagdad, je mets la main, je pille l'Irak.
Il a détruit la région aussi.
Et il a détruit, vous savez, raison, a détruit toute la région. Donc il y a à la fois l'impérialisme américain qui est frappé par ce paradoxe. Il paye beaucoup pour les Nations Unies, mais en même temps utilise les Nations Unies, non pas pour les buts fixés par la société, par la diplomatie multilatérale, par la charte, mais pour, encore une fois, leur multinationale, leur oligarchie financière, qui veut et qui, en effet, domine le monde.
Une semaine d'actualité.
Alors partons pour l'Afrique et parlons d'événements qui vont vous intéresser, Jean Ziegler, ces derniers jours. Avec d'abord un sujet, les ressources du continent et leur utilisation. C'est un sujet que vous connaissez bien. Direction par exemple l'Ouganda, où le président Yoweri Museveni s'attaque aux minerais désormais, qui, dit-il, doivent profiter aux Ougandais, on l'espère. Kampala jeudi, Charlotte Cossé.
Le président Museveni a comparé la terre ougandaise au Katanga congolais, un sous-sol riche de nombreuses matières premières, or, cuivre, cobalt, étain, etc., qu'il faut explorer et exploiter, mais sous certaines conditions.
Si cette pièce est remplie de personnes qui souhaitent travailler avec nous, vous êtes plus que les bienvenus. Mais nous souhaitons de la valeur ajoutée, parce que l'exportation de minéraux bruts, c'est du colonialisme. De quel colonialisme parle-t-on ? Prendre des produits bruts, les transformer à l'étranger et ensuite les ramener à des prix très élevés. Nous ne voulons pas être dans ce type de relation, car nous souhaitons une réelle valeur ajoutée.
L'État ougandais est bien dans une dynamique d'ouverture aux investisseurs, assure Paul Sherwen, secrétaire général de la Chambre ougandaise des mines et du pétrole.
Il fait tout ce qu'il peut pour créer un endroit pour un bon investissement. Il a parlé des taxes qu'il a abolies, surtout le taxe sur l'exploration. Si vous voulez venir explorer, vous pouvez emmener ici les matériaux sans le TVA. Mais aussi, il ne faut pas qu'on prenne du cuivre. Ce n'est pas la peine de l'envoyer à l'extérieur pour le ramener ici, parce qu'on est à 1500 km de la mer.
Comme pour le pétrole, Yoweri Museveni souhaite transformer la matière première sur son territoire.
Après l'Ouganda, Jean Ziegler, le Sénégal et toujours les ressources naturelles, cette fois le gaz. Depuis le début de l'année, d'importantes réserves ont été découvertes, semble-t-il, au large des côtes du pays, donc du Sénégal. Dakar jeudi, Guillaume Thibault.
Tentative pour faire monter les enchères, alors que les discussions sont en cours avec les multinationales du gaz qui vont gérer l'exploitation, une exploitation qui sera effective dans 5 à 7 ans et qui coûtera près de 10 milliards de dollars. Erreur grossière dans les analyses des données. Des acteurs de la filière gaz indiquaient ces derniers jours à RFI, sous couvert d'anonymat, que des réserves de 200 TCF de gaz, plus de 5600 milliards de mètres cubes, auraient été découvertes au large des côtes sénégalaises et ajoutaient que cette quantité placerait le pays au 7e rang mondial au niveau des réserves prouvées. Des informations évoquées, toujours en off, dans les réseaux économiques et politiques. La société Kosmos Energy, qui détient 60% des droits de prospection, ne valide pas ces chiffres et indique que les réserves prouvées sont actuellement de 25 TCF, un peu plus de 700 milliards de mètres cubes. Avec une projection optimale, les études sont en cours de 50 TCF, 1400 milliards de mètres cubes. Ces informations placeraient le Sénégal entre le 23e et le 30e rang mondial, loin donc du 7e rang. Si les quantités annoncées sont donc revues à la baisse, Kosmos Energy confirme que les gisements de gaz sénégalais sont de classe mondiale.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Jean Ziegler, sur vos chemins d'espérance, nombreux chemins d'espérance, pour reprendre le titre de votre livre, Jean Ziegler, vous avez sillonné l'Afrique et on faisait référence tout à l'heure au Katanga, un responsable ougandais parlait du Katanga, ça vous rappelle des souvenirs, ça?
Oui, bien sûr.
Vous avez travaillé tout jeune avec l'ONU au Katanga, au moment de la...
C'était mon premier poste de la deuxième
de l'indépendance congolaise.
Lumumbiste. Ce qui me frappe, comme tout le monde, c'est cette contradiction totalement scandaleuse entre un continent immensément riche, non seulement en ressources minières, mais en ressources civilisationnelles. Les grandes, hautes cultures du monde sont africaines. Ouais. Aujourd'hui, les grandes sociétés traditionnelles et cultures du monde sont africaines. Et en même temps, c'est un continent martyr. C'est vrai qu'il y a la corruption, tout ce que vous voulez. Mais enfin, c'est essentiellement les sociétés multinationales étrangères qui pillent le continent, qui pille le continent, et le résultat, je l'ai dit tout à l'heure, parmi les 5 continents du monde, l'Afrique est celui qui, de loin, est affecté le plus cruellement par la sous-alimentation et par le massacre de la faim. 35,2%, je le répète, selon la FAO, de la population africaine est gravement et en permanence sous-alimentée, mutilée par la faim. Alors, un souvenir dont je parle dans mon nouveau livre que vous venez de citer, Chemin d'espérance, j'étais récemment à Goma. Goma, la grande capitale, vous avez raison, la grande capitale du Kivu, qui est un peu moins grand, presque aussi grand maintenant que Lyon, une ville très très considérable. Eh bien, il n'y a pas un hôpital qui fonctionne, pratiquement pas d'école qui fonctionne, l'État est totalement absent. Un enfant qui a une petite coupure au doigt, une infection, il meurt parce qu'il n'y a pas de services sociaux ou médicaux. Et quelques kilomètres plus loin, au nord Kivu, de l'autre côté, vous avez Glencore, Anaconda Cooper, Kennecott Copper, ces enclaves, les grandes compagnies multinationales, ces enclaves minières protégées par des milices payées par les sociétés multinationales, qui sont généralement meurtrières pour les populations alentours, et le coltan, je prends par exemple le coltan...
Qui sert à la fabrication des téléphones mobiles,
c'est
par
ça, qui est une des minéraux les plus recherchés du monde. Le coltan est pillé directement par Glencore au nord Kivu, et j'ai vu les camions vont vers l'est, entrent dans le Rwanda, Kigali, passent à travers le Kenya, à Mombasa, sur l'océan Indien, sont chargés sur les bateaux, et l'État congolais ne lève pas la moindre taxe, ni impôt, ni taxe d'exportation, ni rien du tout. J'ai vu les camions passant par Goma, passant par Kigali, Mombasa, le pillage le plus éhonté, le plus direct qui soit. Alors, comment faire pour que ces États, la République démocratique du Congo, qui est le pays de Lumumba, bon, il a été assassiné.
Le mastodonte africain.
Oui, c'est un sous-continent peuplé de cultures, de peuples extraordinairement vivantes, riches dans leur cosmogonie, pour que ce Congo puisse enfin se constituer un État et imposer sa loi aux sociétés multinationales qui font le brigandage, le pillage. La responsabilité des Occidentaux est grande. Non seulement des banquiers suisses qui sont dans le coup, évidemment, avec leur cynisme et leur savoir-faire habituel.
Vos amis, les banquiers suisses.
Mais aussi des gouvernements occidentaux qui appuient ce pillage, qui appuient ces sociétés multinationales, qui favorisent le brigandage sur le continent africain. Donc l'Occident est grave. Je ne dis pas que Kabila soit, que plusieurs gouvernements africains ne soient pas totalement corrompus, complices des multinationales, se contentant par quelques chèques.
Ils y trouvent aussi leur intérêt, souvent.
Ils trouvent leur intérêt direct et celui de leur famille. Mais l'Occident est gravement coupable en appuyant ces pilleurs des ressources africaines qui créent par ailleurs la misère, la faim, la destruction des familles sur le continent.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages et merci à ceux nombreux qui nous disent depuis quand ils écoutent l'émission, qui a 20 ans cette saison, vous imaginez, Jean Ziegler. D'ailleurs, vous, il y a quelques années, vous étiez aussi notre invité. Bonjour par exemple à Thierno à Conakry qui nous écoute depuis 2009. Un salut à Sita Sidibé qui suit l'émission depuis 2007, depuis le lycée, dit-il. Un bonjour au club RFI à Kinshasa, à Vital à Yaoundé qui a quelques difficultés à recevoir un RFI ces jours-ci, à Boubacar qui nous écoute lui depuis presque le début de l'émission en 1998, et un salut à Théodore qui se pose une bonne question. Il se demande ce que sont devenues les lycéennes enlevées à Chibok par Boko Haram et qui n'ont pas encore été libérées. Continuez donc à nous dire depuis quand vous êtes fidèles à ce rendez-vous.
Sept jours en Afrique.
Destination le Togo maintenant, Jean Ziegler, à Lomé, où mercredi ont débuté des universités sociales, c'est leur nom. Une vingtaine d'associations du pays ont parlé éducation, droit du travail, répartition des richesses, avant une grande réunion ministérielle qui a lieu d'ailleurs aujourd'hui, Lomé, Anne Cantener.
Le choix de la date ne doit évidemment rien au hasard. Alors que le Togo s'apprête à accueillir des dizaines de chefs d'État et de ministres pour parler sécurité en mer, le président de ces journées sociales, David Dossé, s'interroge.
Combien d'argent le Togo met sur la table? À quoi cet argent a servi? Parce que j'ai vu, c'est vrai, qu'on a mis des feux tricolores, j'ai vu qu'on a mis des marquages sur les routes. Mais une fois qu'on va au-delà de ça, dans mon hôpital, l'équipement n'a pas changé, malgré le sommet. Donc, je souhaiterais avoir des réponses à toutes ces préoccupations en tant que citoyen.
Dans le public, plusieurs syndicalistes, des travailleurs, comme Brice Akomedi, licencié avec ses collègues après avoir protesté contre les conditions de travail à l'usine. C'était il y a 3 ans et depuis, il est toujours au chômage.
C'est le statu quo. Le dossier traîne. Chaque fois que les droits des travailleurs sont violés, nous sommes en solidarité avec eux. Et je crois même que c'est le but de notre présence ici aujourd'hui.
Plus fort, ensemble, c'est le message de ces journées consacrées à la justice sociale pour essayer de mieux faire porter la voix d'associations qui ne sont pas toujours entendues ou qui ne savent pas forcément se faire entendre.
Jean Ziegler, avant de vous retrouver dans une bonne minute, nous allons parler d'éducation en Afrique du Sud. En effet, les étudiants ont intensifié cette semaine leur mouvement de protestation pour une éducation qu'ils appellent gratuite et qu'ils demandent gratuite et décolonisée, disent-ils, alors que le gouvernement a annoncé une augmentation de 8% des frais de scolarité pour la rentrée de janvier 2007 à Johannesburg. Mardi, Lisa Fabian.
Tous les ingrédients d'un cocktail explosif étaient de nouveau réunis sur le campus de l'université du Wits en ce début de semaine. D'un côté, la direction universitaire qui souhaite coûte que coûte assurer les examens de fin d'année. De l'autre, des manifestants bien déterminés à empêcher toute reprise des cours tant que leurs demandes ne seront pas entendues. Entre eux, la police déployée en nombre et lourdement équipée, mais aussi des membres du clergé et des enseignants venus dénoncer l'escalade de la violence et le manque de dialogue. Les premières heures ont éclaté quelques heures après la reprise des cours, puits de pierre et barricades enflammées contre gaz lacrymogène et canons à eau. Une fois le campus évacué par la force, étudiants et policiers se sont affrontés dans les rues du quartier de Bramfontein, au pied des immeubles de bureaux du centre-ville de Johannesburg. La police a dispersé plusieurs fois la foule avec ses véhicules blindés, un bus a été caillassé et incendié en pleine rue. Malgré cette nouvelle flambée de violence qui ne semble pas pas prête de s'éteindre dans les prochains jours, l'Université du Vide se rouvrira de nouveau ses portes aujourd'hui pour tenter d'assurer au moins la moitié des cours.
Vous étiez très attentif, Jean Ziegler, en écoutant ces reportages sur l'Afrique, qui est un continent qui vous est cher. Je salue d'ailleurs tous les étudiants qui nous écoutent. Il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent RFI et cette émission singulièrement. L'Afrique bouge.
C'est ça qui est extraordinaire. Les étudiants bougent. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a le pillage, il y a la misère induite par les sociétés multinationales, il y a la corruption de certains gouvernements, mais il y a une société civile incroyable.
Vous avez vu, à l'OMED, des associations qui se réunissent.
Vous imaginez ce qui s'est passé au Burkina Faso l'année dernière. Oui. Ils ont les jeunes ont chassé l'assassin de Thomas Sankara, Kampore, l'ont chassé, qui a dû fuir le pays. Ensuite, il y a au Gabon les élections truquées maintenant. Le peuple ne descend pas, exige que le droit soit rétabli, que de nouvelles élections aient lieu. Au Bénin, il y a eu des élections démocratiques où le nationalisme a gagné. C'est vrai qu'il y a Biya au Cameroun qui réprime cette société civile. Il est vrai que le Congo-Kinshasa, il y a des morts de ceux qui... La société civile manifeste, veut la justice, veut le respect de la Constitution, est massacrée, mais elle recommence à manifester avec un courage, à une détermination qu'on ne connaît plus en Europe. J'étais longtemps professeur de sociologie à l'Université de Genève. J'ai eu beaucoup d'étudiants, surtout d'exilés, évidemment. J'ai été chaque fois frappé par leur détermination de construire une Afrique nouvelle. Ils payent le prix du sang, bien sûr, mais face à l'indifférence occidentale et à la complicité avec les sociétés multinationales des gouvernements occidentaux, il y a cette société civile africaine, surtout les jeunes, les ligues paysannes au Sénégal, qui sauve l'honneur de l'Afrique et qui ouvre les chemins de l'avenir.
Alors soyons optimistes pour conclure ce numéro d'une semaine d'actualité, Jean Ziegler. Ces chemins d'espérance que vous tracez dans ce livre publié au Seuil vous font reconnaître quand même qu'il y a des avancées. Vous parlez notamment de l'ingérence humanitaire et surtout en ce qui concerne l'ONU, cette notion laissée par Kofi Annan, au moins il aura laissé notion de responsabilité de protéger, qui est une avancée aussi, même si elle est difficilement mise en œuvre, mais c'est une avancée.
Vous savez, il y a en sociologie, à l'école de Francfort, avec Adorno, Horkheimer, etc. Et il y a cette théorie des deux justices. Il y a la justice effective vécue, qu'on voit, qui se déroule, et la justice exigible, c'est-à-dire ce que la conscience collective veut. Comme être juste. Ouais. Eh bien, il y a la justice régressive, si vous voulez, si vous regardez les bombardements d'Alep, la misère en Afrique, la corruption, les sociétés multinationales, le brigandage, etc. Mais la conscience collective, elle, fait des progrès formidables, exige la justice, se mobilise, et le moment de l'incarnation où l'exigence de la conscience devient mouvement social et changement de réalité est certainement proche. L'Afrique ouvre la voie. Est un exemple pour le monde de cette détermination de changer par en bas, les structures meurtrières de cet ordre cannibale qui gouverne la planète.
J'incite les auditeurs à lire votre livre « Chemin d'espérance ». J'ai une dernière question à vous poser, une question légère, ça changera un petit peu dans cette émission. Bob Dylan, prix Nobel de littérature, ça vous inspire, un commentaire ? Il y a débat depuis...
Trouve ça un peu léger. D'abord, les décorations, les prix Nobel, etc., obéissent à des stratégies compliquées. Ils ne sont pas tombés du ciel, ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne les prix Nobel.
Même au Vatican, le Saint-Esprit n'est pas là, en général.
Mais le pape n'est pas mauvais. Hein.
Non,
quand
c'est
il
vrai.
Dit qu'il y a
c'est
un vrai. Milliard de déchets, le terme de déchets pour les exclus complets, c'est miraculeux, c'est ce pape et le Vatican.
Oui, je vous pose une question sur Bob Dylan et on parle de François.
mais Bob Dylan, moi j'aime ses poèmes, j'aime ses chansons. Enfin, je suis de cette génération qui a grandi avec ses chansons. Mais en littérature, il y a d'autres pointures, notamment en Asie, en Afrique, en Amérique latine, qui mériteraient infiniment mieux. Cette distinction est donc l'audience qui va avec.
À partir de l'année prochaine, alors maintenant, pour le prochain prix Nobel.
C'est pas sûr. Hein.
pas sûr.
Parce que les mêmes intrigues continuent à gouverner Oslo et Stockholm.
Ben, c'est un autre combat futur, ça. Donc, oui. pour... Jean Ziegler, Chemin d'espérance, c'est combat gagné, parfois perdu, mais que nous remporterons ensemble, un livre publié au Seuil. Merci.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Continuez, qui écoute Bob Dylan aussi, continuez à nous dire par courriel ou à la page Une semaine d'actu de Facebook depuis quand vous écoutez l'émission. On est en 1996, donc je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Nous parlerons d'une philosophe que vous connaissez bien, Jean Ziegler, Hannah Arendt, philosophe de la politique qui a analysé le totalitarisme, notamment. Notre invitée sera Marianne Lescouret, une spécialiste d'Arendt. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris, 16h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, nouveau journal sur RFI. Come gather round people, wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changin'.